l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM qui travaille, mais dans le bien-être si possible. C'est devenu une question cruciale du monde professionnel. Qu'on soit salarié ou à son compte, dans une petite boîte ou un grand groupe, il faut éviter le burn-out. Il faut aussi s'épanouir dans sa mission, se sentir utile, pouvoir se regarder dans la glace également. Des États-Unis est venu le concept de bullshit job, des boulots parfois très bien payés mais qui n'ont aucun sens, voire qui sont nuisibles à la société. Ils complètent les jobs ingrats, pour rester poli, ceux dans lesquels on est exploité, maltraité, mal payé, mal considéré. En France, 62% des salariés et 75% des managers perçoivent le travail d'abord comme une source d'épanouissement personnel avant d'être une source de contraintes. C'est ce que nous apprend le baromètre 2018 Climat social et qualité de vie au travail de l'Observatoire Ségos. Mais l'Institut fait la comparaison avec son enquête de 2015, trois ans avant, et note que le curseur du niveau d'investissement et de motivation au travail est en baisse, plus nettement pour les cadres que pour les salariés d'ailleurs. Notre invitée est concernée par la question, elle est coach et formatrice dans le milieu professionnel. Elle accompagne individuellement et collectivement les salariés et les cadres. Elle est aussi membre de l'association Elle à Brest, un réseau de femmes cadres et entrepreneuses dans le Nord Finistère, qui a récemment fêté ses 10 ans. Bonjour Soizic Bruno.
Bonjour Véronique.
Le bien-être au travail, on en parle donc vraiment beaucoup. À votre avis, pourquoi ?
Alors, on en parle beaucoup parce que c'est vrai que je crois qu'on est en train de changer. La société change énormément, en fait. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, précédemment, toutes les informations nous venaient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des modèles sociaux très clairs qui étaient définis. On avait effectivement, l'école était la source d'apprentissage, la famille était très structurée, voilà, il y avait les parents, les enfants, il y avait la religion qui avait un rôle très, très important. Et puis, l'entreprise. En fait, on rentrait dans une entreprise, on faisait sa carrière et puis on terminait. Et puis tout ça, ça s'est effondré. C'est vrai qu'aujourd'hui, les repères ne sont plus du tout les mêmes. Il y a des modèles de tous bords. Et en fait, les gens se retrouvent confrontés finalement, à un moment donné, à cette évidence de « mais moi, finalement, pourquoi je fais ce que je suis en train de faire ? Parce que tout est possible. » Et c'est vrai que si l'entreprise n'est pas aujourd'hui capable d'apporter des réponses par rapport à ça, des réponses claires et puissantes, c'est vrai que les salariés vont suivre une espèce de... comme le hamster dans sa roue, vont tourner comme ça au quotidien, comme le hamster dans sa roue, jusqu'à l'épuisement. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de burn-out, en fait, c'est là où le burn-out peut surgir. Donc ça, c'est une des premières clés. Après, il y a aussi le changement générationnel. On avait la génération Y qui avait déjà émergé et qui avait vraiment besoin de remettre du sens aussi dans ce qu'elle faisait dans l'entreprise, qui était déjà un petit peu, je ne vais pas dire méfiante, mais qui ne prenait déjà plus tout à fait pour acquis ce que la hiérarchie pouvait lui transmettre.
Alors Y, on va dire, c'est ceux qui sont nés dans les années 70 à peu près,
c'est de 81-95 bon. À peu près. Ouais. Et depuis en fait 96, et là c'est vraiment la génération qui arrive sur le marché du travail, la génération Z. Pour zapping, ce qu'on appelle les digital natives, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec un téléphone portable.
C'est vrai, on pourra parler aussi de l'importance du numérique,
tout ça. Oui, complètement, oui. Et c'est vrai qu'eux, forcément, ils ne viennent pas du tout chercher la même chose en entreprise. Et l'entreprise doit s'adapter aussi à ces populations-là, parce qu'on ne peut pas du tout les manager et leur offrir la même chose au niveau du travail que ce qu'on faisait précédemment. Et puis, le troisième chose, c'est, il y en a encore d'autres, mais c'est vrai, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, l'augmentation du burn-out, qui ouvre un petit peu les consciences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pourquoi on s'épuise autant dans le travail et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pallier à ça, parce que c'est vrai qu'on sait les conséquences économiques que ça a au niveau des entreprises et c'est impératif de le prendre en considération.
Le bien-être au travail, comment est-ce qu'on pourrait le définir ? Alors, peut-être qu'on va le définir en creux, d'ailleurs.
Oui, complètement. C'est beaucoup de choses, le bien-être au travail. Alors, c'est vrai que je m'amuse un peu parfois quand même à voir une espèce de surenchère je mets des toboggans, je mets des tables de billard ou de baby-foot, etc., de ping-pong, voilà. Faut faire attention parce que le bien-être au travail, c'est bien au-delà de ça, en fait. Hein. Ça, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Mais le vrai bien-être au travail, ça doit être vraiment une volonté profonde de l'entreprise de faire une différence et de faire en sorte que ses salariés soient vraiment, vraiment bien. D'abord, le bien-être au travail, c'est d'abord de prévenir les risques psychosociaux. Ça, c'est vraiment la base. C'est pour ça que ça a été mis en œuvre au départ. Donc, tout ce qui a trait bien, aux violences internes, les insultes, le harcèlement moral, harcèlement sexuel, on en parle beaucoup aussi, bien évidemment. Et puis, justement, prévenir les risques psychosociaux comme, justement, le stress, le burn-out.
Et puis il y a des milieux qui sont plus exposés, hein, ça, les risques psychosociaux, par exemple le milieu hospitalier, éducation peut-être aussi.
On voit en fait que ce qui est dans les exemples que vous citez, c'est intéressant parce qu'effectivement plus les cadres sont figés et plus les risques sont grands en fait. Parce que c'est ce qu'on voit là, finalement, c'est que le cadre, il y a beaucoup d'inertie, c'est un cadre qui est très strict, sur lequel on n'a pas beaucoup de la main. Et donc, dans ce cadre très carré, très...
Quand vous dites cadre, c'est organisation du travail.
J'entends le cadre là, hospitalier, le cadre, voilà, il y a une hiérarchie qui est lourde, assez administrative, donc il y a une grosse inertie. Et donc forcément, les initiatives individuelles, les élans individuels sont forcément freinés beaucoup plus et beaucoup plus limités. Et dès lors qu'à titre individuel, on fait face à ça, là, c'est la capacité de l'individu à faire face à ça qui est requise. Et puis naturellement, on voit bien que on va avoir des individus qui vont entrer en résistance par rapport à ça et qui vont s'épuiser au petit à petit, en fait.
Les risques psychosociaux, ceci dit, concernent aussi des gens qui sont à leur propre compte. Là, on pense par exemple aux agriculteurs, chez nous. Enfin, je ne sais pas si vous intervenez auprès des agriculteurs.
Non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est d'ailleurs la profession qui est la plus exposée au burn-out. Parce que c'est aussi, là pour le coup, c'est des métiers vraiment de passion. Et d'ailleurs, voilà, vous avez ici l'éducation et puis dans les hôpitaux aussi, c'est des métiers qui ont vraiment du sens, en fait, à la base. Mais malheureusement, où les gens s'épuisent parce qu'il n'y a pas forcément non plus le retour de tout ce qu'ils y mettent en termes d'investissement personnel. Et c'est vrai que à force de mettre beaucoup, parce que quand on a un métier de passion comme ça, on se donne énormément. Et si à terme aussi on ne gagne pas sa vie avec, c'est vrai que forcément on va dans le mur. Et une fois de plus, l'agriculture est tellement soumise aussi à des choses qui sont pas en son pouvoir, c'est-à-dire la météo, les aides collectives, etc. Quand ça n'arrive pas, c'est vrai que ça, c'est l'individu qui doit absorber ça, et émotionnellement, etc. Et c'est vrai que c'est là aussi où le burn-out arrive, en fait.
Donc, éviter le bien-être, ça serait éviter, donc on l'a dit, les risques psychosociaux, la violence, les risques peut-être externes, ou internes d'ailleurs. Ça serait avoir un contrôle quand même sur ce qu'on fait, et puis un retour, c'est ça ? Gratification ? Et puis avoir du sens, en fait, avoir le sentiment d'avoir du sens.
Alors, moi, j'ai envie de dire, effectivement, que ce serait d'avoir, si on élargit un petit peu tout ça, un système qui soit vraiment respectueux de ceux qui constituent ce système. Donc, c'est déjà s'ouvrir à la diversité des personnes. Parce que c'est d'avoir la capacité à accueillir tout le monde et tout type d'individus, quoi. C'est-à-dire que maintenant, alors moi, c'est vrai que j'ai une aversion pour les moules, pas les moules à tarte, mais les vrais moules, c'est-à-dire ceux qui obligent à entrer dans un certain cadre, d'une manière très stricte et très rigide, en fait, alors que nous, individus humains, on est tous différents à la base, de toute façon.
Et pourtant, on dirait que les tests de recrutement privilégient un peu cette standardisation, non ?
Alors justement, ça tend à s'atténuer de plus en plus, et on voit qu'il y a des vraies évolutions aussi dans la façon de recruter les personnes, et tant mieux, parce que justement, vous rebondissez effectivement sur quelque chose que j'avais envie de dire, c'était vraiment de prendre en compte les individualités, et puis de sortir, quand je dis sortir des moules, c'est aussi aller au-delà de ce que la société nous dit comme étant la référence, c'est-à-dire notamment les diplômes, exactement, et d'avoir la capacité à aller regarder au-delà du diplôme. Parce que finalement, un diplôme, c'est quoi ? C'est un apprentissage et c'est des compétences. Les compétences, ça s'acquiert. Et donc, j'ai envie de dire que n'importe qui peut acquérir des compétences s'il le souhaite, et donc obtenir un diplôme s'il le souhaite. Ce qui va vraiment faire la différence, et c'est là où il y a des vrais changements dans le recrutement, c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ce que font les personnes naturellement, leur talent naturel, en fait. Et c'est vrai que les entreprises qui vont performer, ça va être peut-être les entreprises qui vont être à même justement d'aller au-delà des diplômes et d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, pour être personnellement concernée par justement des enfants qui ne sont pas dans les moules, entre guillemets, c'est des enfants qui ont pourtant beaucoup de talent, beaucoup de compétences, et j'en vois beaucoup autour de moi, mais qui ne sont pas valorisés parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que déjà le système éducatif ne va pas les valoriser, alors même que c'est des talents qui seraient presque gâchés. Donc, avant le recrutement, effectivement, d'avoir cette capacité à regarder ça. Et au sein des entreprises, on en a aussi beaucoup parlé, c'est tout ce qui est de l'ordre des profils atypiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi des profils en entreprise qui nécessitent d'être regardés plus près et d'être considérés parce qu'ils ont des rythmes différents, ils ont une façon de voir les choses différentes, et que même s'ils ne rentrent pas dans le cadre de ce que fait l'entreprise, ils ont certainement quelque chose d'extrêmement précieux à apporter à l'entreprise de par leur façon de fonctionner. Et souvent, les entreprises qui sont trop traditionnelles passent à côté de ces profils-là. Finalement, elles perdent de la richesse, en fait, de richesse de potentiel, parce qu'elles ne savent pas gérer ces profils un peu atypiques, alors même qu'ils peuvent apporter énormément à l'entreprise.
Et je ne sais pas si vous l'avez constaté dans votre travail, mais est-ce que, par exemple, la loi handicap qui impose, entre guillemets, de recruter des personnes en situation de handicap, ou même les circonstances qui font que, par exemple, on doit favoriser le télétravail, est-ce que ça peut permettre justement d'ouvrir à des profils atypiques? Est-ce que ça a déjà créé une ouverture?
De toute façon, à un moment donné, quand les choses ne se font pas naturellement, que ça soit, on va en reparler tout à l'heure avec Ella Brest, mais quand on parle justement de parité, alors moi, c'est vrai que a priori, ça me semble tellement aberrant qu'on soit obligé d'en passer par là que je ne suis pas pour ce genre de choses, mais je pense que c'est l'étape nécessaire pour qu'il y ait une vraie prise de conscience, pour ouvrir les portes à justement qu'est-ce qui va se passer si effectivement on accueille plus, on est plus ouvert au handicap, on est plus ouvert justement à des profils atypiques, on est plus ouvert à l'égalité homme-femme, pour que les entreprises prennent conscience de toute la richesse que ça peut leur apporter. Donc on est obligé d'en passer par un cadre légal finalement, pour ouvrir la voie à quelque chose, pour qu'après, on se rende compte qu'effectivement, il y a des vrais bénéfices.
Alors, on a fait le tour de ce que pouvait être le bien-être au travail, je pense, à peu près. Et alors, à l'inverse, quels sont les indices, alors là, peut-être à titre plus personnel et individuel, qui doivent inquiéter? Parce qu'on ne le repère pas toujours qu'on n'aime pas bien au travail. Qui pourrait inquiéter?
Il y a différents. Je pense que le gros risque, vous voulez dire quand on arrive dans un burn-out, quand on risque d'aller vers cette voie-là? Tout simplement, déjà, il y a des sensations physiques. Moi, j'appelle les gens que j'accompagne à s'interroger, s'écouter énormément, parce que finalement, notre mental, il nous emmène en fait à résister à tout un tas de signaux, et c'est ce qu'on appelle des signaux faibles en fait. C'est-à-dire des petites choses du quotidien qui devraient nous alerter sur le fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus cohérent en fait. Donc c'est vrai que ça va être une démotivation, ça va être avoir du mal à faire des tâches, avoir se déconcentrer facilement, sentir qu'il y a une frustration au quotidien, une humeur qui est plutôt maussade. Et puis, de temps en temps, vraiment, même carrément des sensations de « mais qu'est-ce que je fais là ?» quoi. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu.
Et alors justement, vous pouvez nous raconter peut-être, je ne sais pas.
Moi, j'ai vécu deux épisodes. Alors, à une époque, on ne parlait pas forcément de burn-out. Moi, j'avais plutôt mis le terme de dépression il y a 10 ans sur ça. C'était à la fois au niveau professionnel et au niveau personnel. Donc, c'est vrai que c'est souvent, d'un coup, quand les modèles qu'on a mis en place s'effondrent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui commence à coincer, à gripper un petit peu. Et puis souvent, c'est d'ailleurs un peu la cascade. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'ai tout remis en place, j'ai tout restructuré pour que ça corresponde beaucoup mieux à qui j'étais, en fait. Mais tout, quand je dis tout, c'est-à-dire mon modèle éducatif, mon rapport au travail, mon rapport aux autres, mon rapport à moi-même. On fait un gros, gros travail de fond. Et puis en 2016, je vais passer les détails de mon parcours, mais en 2016, effectivement, j'ai eu, là pour le coup, j'ai traversé ce qu'on appelle un bore-out. Alors c'est moins connu.
Oui, c'est vrai.
Alors il y a aussi le brown-out qui existe. Oui. Le brown-out, c'est un conflit de valeurs. Le bore-out, c'est... Pardon ?
Brown-out, c'est que là, quand on ne peut pas se regarder dans la glace à cause de son travail, quoi.
C'est ça.
On se dit, ce que je fais, c'est vraiment nuisible.
Exactement, ouais. Et le bore-out, en fait, c'est de l'épuisement professionnel par l'ennui.
C'est la placardisation, quoi, pour tout dire, un peu.
Alors le truc, c'est que ce n'est pas forcément de la placardisation, c'est juste à un moment donné, un décalage entre ce qu'on attend, nous, du travail et ce que l'environnement dans lequel on évolue nous offre. Alors c'est vrai que les premiers signes au départ, c'est qu'on a tendance effectivement à en vouloir un petit peu à tout ce qui se passe autour de nous. Et à un moment donné, on prend conscience qu'en fait, c'est pas nous le problème, c'est pas l'environnement le problème, mais c'est nous dans cet environnement-là. Et c'est là où, il y a des choses à faire et de se dire, ce qu'on m'offre là dans le cadre dans lequel je suis ne correspond pas à qui je suis, ne correspond peut-être pas à ma conception du travail, mais ne me permet pas non plus d'utiliser pleinement moi les talents qui sont les miens.
Vous aviez le sentiment de ne pas apprendre, de plus apprendre. C'était quoi exactement le problème ?
Moi, ce qui me manquait fondamentalement, c'était effectivement... parce que j'ai beaucoup appris, et c'est ça qui est intéressant, c'est de transformer ça et de se poser les bonnes questions. J'avais besoin d'apprendre, j'apprenais plus rien. J'avais plus de formation, donc j'avais besoin d'être formée. Et c'est vrai que j'étais dans une entreprise où c'est vrai que ce qui était favorisé, c'était des formations très techniques quand même. Et moi, j'étais dans un domaine où j'attendais autre chose comme type de formation. Donc c'est vrai que j'avais pas mon compte en termes d'apprentissage. J'avais besoin d'apprendre. J'avais besoin de nouveautés, de mettre beaucoup de nouveautés. Et c'est vrai que
vous aviez toujours les mêmes collègues, par exemple. Non
ou alors par contre mes collègues, j'avais la chance d'être extrêmement bien entourée. Donc ça c'était vraiment un point fort et ça a été le point qui m'a permis justement de tenir, mais c'est vrai que pour le reste et puis le fait de plafonner, de ne pas être entendu, puis d'avoir le sentiment peut-être d'avoir des choses à apporter à la structure mais que la structure n'était peut-être pas prête à ce moment-là à entendre aussi donc il y a des décalages de rythme et puis d'être dans une structure aussi moi avec beaucoup d'inertie qui correspondait pas à mon rythme en fait.
Vous aviez des projets pour l'entreprise et puis elle n'en voulait pas en gros. Enfin, c'est un peu ça quoi.
Ouais, je pense que peut-être que elle n'était pas prête, mais parce que chaque entreprise a son rythme aussi et que le mien, moi c'est ça, il y avait un décalage de rythme en fait. Je pense que c'était vraiment ça. Et puis un décalage de structure, c'est vrai que c'était compliqué quand vous avez des systèmes de il faut attendre, on a fait un truc, mais il faut attendre le retour de un tel et de retour de un tel. Alors vous se balancez le truc dans un sens, il faut attendre que ça revienne et en attendant, on fait quoi ? Et c'est vrai qu'il y avait ces temps de latence qui étaient compliqués à gérer. Donc, à ce moment-là, on fait quoi ? On entre en résistance, c'est-à-dire qu'en fait, on s'épuise énormément à gérer ce qui se passe. Et de la même manière qu'un burn-out, en fait, qui est une résistance finalement à la pression, à tout ce qui vient, le burn-out, on résiste finalement à ce décalage, en fait. Et les conséquences sont les mêmes, c'est plus de jus du tout. Ouais. Le corps, il est vidé de son énergie. Et puis surtout, là, à un moment donné, se dire, mais qu'est-ce que je fais là ? Et c'est quoi ma vie ? Est-ce que je vais continuer à passer toute ma vie dans un travail où, en fait, ça ne me nourrit pas quoi.
Donc vous, en tant que coach professionnel, vous utilisez une métaphore intéressante, la spéléologie d'ailleurs.
C'est vrai.
Alors expliquez-nous, comment vous procédez alors ?
En fait, je dis que je fais de la spéléologie intérieure parce que l'image m'est venue une fois, parce que finalement, toutes les réponses à toutes ces problématiques, en fait, elles sont d'abord à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens d'une quarantaine d'années qui viennent me voir, quoique il y a des gens de plus en plus jeunes qui viennent me voir, parce que on sort d'un monde où, effectivement, l'extérieur nous conditionnait. Comme on le disait tout à l'heure, il fallait passer des diplômes, il fallait avoir un CDI. On misait énormément sur le fait d'avoir. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'inverser les choses et d'aider les gens à être d'abord, c'est-à-dire à se connaître profondément. Qui ils sont ? Quels sont leurs talents ? Qu'est-ce qui est important ? À quoi ils ont envie de contribuer aussi, eux, en tant qu'individus, dans leur vie professionnelle ? Et c'est vrai que quand ces personnes ont cette capacité à se connecter à ça, elles comprennent là où elles doivent être. Et là, là, la joie revient parce que finalement, elles sont capables d'être autonomes dans la réponse à leurs propres besoins. Et elles ne sont plus obligées de se planquer derrière des raisons de « mais il me faut un salaire et il faut que je travaille et j'ai des comptes à rendre, il faut ». C'est-à-dire qu'en fait, il faut déconditionner un petit peu au niveau mental tout ce qu'on nous a transmis depuis qu'on est petit, quoi.
Donc parfois, vous, quand vous intervenez auprès de personnes, d'individualités, vous les amenez à changer de travail, à quitter leur travail concrètement, quoi.
Alors, pas forcément, en fait. En fait, c'est assez... c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, il y a tous les cas de figure sont possibles. Il y a des personnes qui, effectivement, finissent par quitter leur travail. Mais il y a aussi des personnes qui prennent conscience que finalement, ils ont focalisé sur leur travail comme étant la source de leur mal-être, mais ils prennent conscience qu'en fait, c'est leur rapport au travail qui n'était pas correct, ou qu'ils ont... et donc, ils rééquilibrent un petit peu aussi les choses. Après, j'ai aussi des chefs d'entreprise qui sont venus me voir et qui avaient créé leur entreprise, mais qui, à un moment donné, perdaient un petit peu le fil, et qui avaient juste besoin de rééquilibrer ce que j'appelle les domaines de vie, c'est-à-dire rééquilibrer d'autres sphères de leur vie, parce que avant d'être être un professionnel, que ce soit un chef d'entreprise, manager, salarié, peu importe. On est d'abord des humains, en fait. Et on a juste besoin d'être nourri sur différentes dimensions. Donc, on a une dimension de couple, de famille, une dimension amicale, une dimension sociale. On a besoin d'avoir du temps pour soi aussi. Et c'est vrai que c'est aussi l'équilibre de tout ça qui peut parfois créer des distorsions et qui font que les gens, à un moment donné, vont tout mettre sur le dos de leur travail. Alors qu'en fait, c'est pas là que ça se passe, c'est pas à ce niveau-là. Donc, c'est très variable. Et puis, c'est aussi autoriser les gens parfois à changer leur vision du travail. Parce que parfois, ils ont justement une vision qui est conditionnée par leur éducation, etc. Ils ont des croyances limitantes sur le travail, c'est-à-dire le travail, c'est je rentre au bureau de 8h à 17h, et puis voilà. Et à côté, ils ont des passions incroyables, mais ils ne s'autoriseront jamais à vivre leur vie avec leur passion. Alors que maintenant...
Ah oui, il y a des métiers qui ne perçoivent pas des passions comme pouvant être un métier, alors qu'en fait, si, ça pourrait être un métier.
Oui, exactement. Mmh. C'est-à-dire que c'est une passion, donc pourquoi ? Ben non, je ne vais pas vivre de ça, ça leur semble... Alors qu'aujourd'hui, en fait, ben justement, au contraire, tout est possible. Alors que ça soit décidé, moi, j'accompagne des personnes qui vont se lancer dans du blogging, qui vont se lancer...
Qui vont écrire des blogs, quoi.
Oui, qui créent des blogs.
Et qui vont essayer d'en vivre.
Voilà, des gens qui ont envie de partager leurs expériences. Mmh. Et il y a plein de possibles qui existent. Moi-même, je me suis beaucoup développée grâce aux nouvelles technologies parce que aujourd'hui, ça ouvre des portes fondamentales et super intéressantes justement pour finalement mettre son travail au service de sa vie et pas l'inverse.
Mm-hmm. Oui, ce que vous dites en fait sur le coaching, le rapport au travail, c'est pareil. C'est un peu pareil comme notre rapport au numérique qui peut être un outil terrible et un outil bien pratique, en fait.
Ouais, c'est ça, ça dépend comment on l'utilise, en fait.
C'est ça, ouais.
Mais, et puis, tout dépend de pourquoi on l'utilise, c'est quoi le pourquoi, c'est quel sens et quelle contribution on met derrière tout ça, ouais.
Donc, quand vous intervenez individuellement, avec des personnes, c'est plutôt sous forme de séances, presque des séances de thérapie, non ?
Alors, faut faire attention justement le coaching.
Ouais,
alors,
c'est vrai pas que thérapeute,
ouais, je sais. Ouais. Alors, c'est une thérapie courte, hein, on appelle ça une thérapie courte. Après, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Les gens ont du mal à parfois avoir la différence entre, par exemple, la psychologie et le coaching.
Ouais, c'est ça, ouais.
Le coaching, en fait, on part d'une situation actuelle, d'un contexte qui est celui qui est là, et on vise une situation. Et l'objectif, c'est d'aider la personne à partir du contexte dans lequel elle est, à la situation qu'elle souhaite obtenir. Et donc, pour ça, ça passe par l'aider à débloquer ses croyances, ramollir ou carrément dégager ses croyances limitantes, dépasser ses peurs, changer son état d'esprit, aller justement à la recherche de ses valeurs, ses talents, etc., pour l'aider à se créer une vision claire, etc. Donc ça, c'est tout ça. Le passé, dans le coaching, c'est un point de référence, mais on ne va pas naviguer dans le passé, parce que ce qui nous intéresse, c'est là où on va, en fait. Donc, on est construit par le passé, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir et on avance, en fait. Alors que la psychologie, effectivement, reste ancrée plutôt dans
explore le passé, quoi.
Voilà, ouais. Quelles sont les causes de ce que je vis aujourd'hui, quoi.
D'accord. Mmh. Et quand vous intervenez collectivement, là, j'imagine que c'est différent. Quand vous êtes, intervenez dans une entreprise pour un séminaire, comment vous faites ?
Il y a différents types de choses, soit effectivement sous format de conférence, où là, on part sur un sujet en fonction du public présent. Après, en formation, ça va être, par exemple, d'aider les salariés à justement se reconnecter à eux-mêmes et à ce qu'ils souhaitent et à leur faire comprendre que, finalement, en se remettant, en retrouvant le sens dans leur travail, c'est-à-dire en se reposant les bonnes questions par rapport au choix du métier qu'ils ont choisi. D'un coup, ils se reconnectent en fait à la motivation qui les a fait choisir ce métier et qui les a fait peut-être choisir cet environnement. Ça les aide aussi à dépasser leurs limites, à prendre conscience. Moi, je sais que dans une entreprise où je suis intervenue, c'est vrai qu'il y avait des personnes qui avaient du mal à oser, par exemple, on peut imaginer des services commerciaux, par exemple, certains commerciaux qui vont peut-être pas oser faire certaines démarches parce que, à un moment donné, leurs limites personnelles interfèrent avec à ce que la profession leur demande. Donc, c'est vraiment les aider à aller vraiment chercher leur plein potentiel et leur faire comprendre qu'en fait, on peut tous développer le meilleur de notre potentiel sous réserve qu'on se débarrasse de ce qui nous limite, en fait.
Vous êtes membre du réseau Aile à Brest, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais est-ce que vous pouvez nous préciser ce que fait Aile à Brest dans ce domaine du bien-être au travail?
Fondamentalement, Aile à Brest donc, est une association qui accompagne les femmes à notamment se déployer au niveau professionnel, puisque en créant du réseau, en les aidant à développer aussi leurs compétences, puisqu'il y a des ateliers, des partages de compétences qui sont mis en place. Et puis, Aile à Brest travaille à l'égalité femmes-hommes en entreprise. Et pourquoi c'est important pour le bien-être au travail? Parce que tout simplement, à mon sens, une société plus juste et plus égalitaire sera une société, et ce sont des entreprises qui fonctionneront mieux, de toute façon au niveau économique, ça a été prouvé, que quand il y a une meilleure égalité dans les entreprises, les résultats financiers des entreprises sont bien meilleurs. Il y a même des études qui ont prouvé que plus il y avait de femmes dans des groupes de projets, et meilleure était l'intelligence collective. Donc c'est pour ça que grâce à des associations comme Aile à Brest qui favorisent justement cette égalité, les conséquences, c'est qu'effectivement une société va être les entreprises vont être beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus performantes, beaucoup plus accueillantes, des spécificités, des atypicités, etc.
Merci Soizic Bruno. J'ai invité nos auditeurs à vous retrouver sur notamment votre site internet, puis différents réseaux sociaux, et à réécouter aussi cet entretien sur le site internet de Radio Évasion. À bientôt.
Merci.
L'EM.